Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute des investisseurs pour ce mercredi 22 juillet 2026. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, comme à toutes les semaines, avant de plonger dans notre sujet principal, prenons quelques minutes pour faire le point sur les marchés.
Les marchés demeurent quand même assez en dents de scie, un marché à deux temps. Il y a certains titres qui performent quand même assez bien, d'autres moins. On a surtout le secteur des semi-conducteurs aux États-Unis, donc c'est toutes les puces mémoire, les microprocesseurs, donc les Nvidia, AMD et tout ça. C'est un secteur qui avait été très, très fort depuis le début de l'année. On parle d'une baisse de moins 12% depuis un mois. Donc ça affecte le Nasdaq principalement en baisse de 1,5% depuis le début du mois de juillet. Demeure en hausse de 11,6% depuis le début de l'année. Au Canada, c'est quand même un petit peu mieux. On parle d'une hausse de 0,1 cette semaine, 1,5 depuis le début du mois. Évidemment, la hausse des cours du pétrole, on est rendu à 87 $ le baril. Les hostilités qui ont repris là, au Moyen-Orient fait que le prix du pétrole a augmenté. Notre indice est quand même assez fortement concentré. Là. Il y a une pondération élevée dans le secteur du pétrole. Donc ça l'augmente. Les banques ont bien fait là, dans les 2-3 derniers jours, un peu moins, là, mais quand même, là, dans les dernières semaines, ça avait très bien fait. Côté américain, là, plus global, le S&P 500, on parle d'une baisse de 1,5% cette semaine. On est à zéro pour le mois de juillet, quand même une hausse là, de 9,7% depuis le début de l'année. Sur les marchés internationaux, Europe, Australie, Asie, un petit peu plus marqué au niveau de la baisse, 1,5%. Bon, on sait que ce sont des économies plus affectées par les cours du pétrole. Principalement, ce sont presque tous des pays importateurs de pétrole. Donc, quand le cours du pétrole augmente, l'économie en souffre un petit peu plus. Dollar canadien relativement stable à 70,9. On était à 71 la semaine passée. Les vacances de la construction sont commencées. Donc, ceux qui voyagent, le dollar canadien ne vous a pas aidé tant que ça. Les taux d'intérêt au Canada, 3,58 stable par rapport à la semaine passée. Aux États-Unis, légère hausse, 4,62. On a eu les chiffres d'inflation là, la semaine passée qui étaient légèrement inférieurs aux attentes, mais demeuraient supérieurs à la cible des banques centrales au-dessus de 2%. Et là, on attend avec impatience à la fin des marchés aujourd'hui les résultats financiers, entre autres, de Alphabet, que beaucoup de nos clients détient. Il y a Tesla, qu'on ne détient pas vraiment, mais qui est quand même toujours un titre qui a une influence sur les marchés. Et Waste Connection, l'entreprise de gestion de déchets et de recyclage. Puis, petite parenthèse, puisqu'on en a parlé là, dans les 2-3 dernières semaines, là, ceux qui ont manqué le IPO de SpaceX, puis je dis ça avec un peu de sarcasme, là, le premier offre publique à l'épargne. Je dis ça avec un peu de sarcasme, là, parce qu'on ne l'a pas recommandé du tout. Là. Le titre était annoncé à 135 $. On est maintenant à 123. Donc, on est en bas du prix d'émission initial. Donc, je vous rappelle, SpaceX demeure à 172 fois les bénéfices anticipés de la prochaine année. Puis, on trouve que le marché est un peu cher à 21. Là, t'sais. Donc, ça donne un peu une perspective quand l'ensemble du marché est cher à 21, mais il y en a qui sont prêts à payer 172 fois les bénéfices pour une entreprise. Je me questionne un petit peu sur les motifs de ces achats-là.
Bon, ben merci beaucoup, Martin. Aujourd'hui, nous allons explorer une question qui semble presque philosophique au premier abord. Une question qu'on ne se pose jamais vraiment, mais qui est pourtant au cœur de toute l'économie. L'argent existe-t-il vraiment? Donc aujourd'hui, on plonge dans la philosophie, c'est l'été.
Ouais.
On en gagne, on en dépense.
Ça, on est bon.
Oui, on l'investit. On s'inquiète parfois à son sujet, mais au fond, qu'est-ce que l'argent? Pourquoi un billet de 100 vaut-il quelque chose? Pourquoi avons-nous confiance dans des chiffres affichés sur un écran? Et qu'est-ce qui donne réellement de la valeur à notre monnaie? C'est ça qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. C'est quand même un gros sujet. Donc, Martin, commençons par une question simple. Qu'est-ce que l'argent?
Ben, c'est simple en apparence, là, mais c'est un peu plus complexe quand on y réfléchit un peu plus. L'argent, en soi, c'est pas ça. C'est pas la richesse. Hein. L'argent, c'est simplement un outil, c'est un moyen d'échange. C'est une façon de transférer la valeur d'un individu à un autre. Tout simplement, un billet de 100 piastres, c'est un bout de papier qui vaut rien. Donc, on lui accorde une valeur parce qu'on s'est entendu que ça avait une valeur.
Exactement. Donc, lorsque je possède un 20 $ dans mes poches, le morceau de papier en tant que tel ça n'a pas de valeur.
Ben, exact. Donc, le papier lui-même, évidemment, il vaut presque rien. Bon, les banques sont... pas les banques centrales, là, mais la Royal Canadian Mint là, qui produit les billets. Bon, ils essaient de faire des beaux billets avec des petits reliefs là, pour essayer que ce soit difficile de copier, évidemment. Donc, ça vaut plus qu'un petit bout de papier parce qu'il y a un peu de technologie dans le bout de papier. Mais essentiellement, ça vaut rien. Là. Ce qui donne la valeur à un billet de 20 $, c'est que collectivement, on s'est tous entendus que ça vaut 20 $, tout simplement.
Donc, l'argent repose essentiellement sur une entente collective.
C'est une immense entente. Là. C'est des millions de personnes, on a décidé d'y faire confiance, de dire que l'argent vaut. Donc, moi, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, mon travail a une valeur. Pour représenter cette valeur-là, ben j'ai de l'argent, puis vous faites d'autres choses dans la vie, mais j'ai besoin de vos services. Donc, l'argent, on peut s'échanger comme ça. Donc, quand on y pense, c'est assez extraordinaire. Là. Des millions de personnes, à chaque jour, on s'échange des biens, des services, du temps de travail, contre des bouts de papier qui valent rien, ou un relevé bancaire. Bon, il y a moins d'argent cash là, qui circule. Là. Ben, souvent, c'est plus un bout de plastique là, dans lequel est caché notre argent. Mais c'est un petit peu ça. Toute la planète au complet s'est entendue pour dire « Ah, parfait, on va s'échanger là, de l'argent théorique comme ça, qui représente un petit peu le temps qu'on a mis à travailler. »
C'est incroyable. Est-ce que l'argent a toujours existé?
Non. De notre vécu, oui, là, on s'en fout. Mais non, pendant des milliers d'années, les humains, ça fonctionnait par le troc. Donc, le troc, c'est on s'échangeait des biens contre d'autres biens. Fait que, tu sais, par exemple, l'agriculteur, bon, il avait du blé, puis là, il voulait manger du poisson, ben il prenait un tas de blé, puis il allait voir un pêcheur, puis il donnait du blé, puis le pêcheur, il donnait du poisson. L'artisan, ben il échangeait des outils, mettons, contre, tu sais, le forgeron, il échangeait un couteau contre un chandail, tu sais. Donc, c'est un petit peu comme si ça, c'était les premières façons d'échange. J'ai ça, t'as ça, genre, je veux ce que t'as, puis j'ai trop de ce que j'ai, donc je t'en donne.
Ben, je me rappelle très jeune d'avoir appris sur le troc. Je pense que c'était au primaire même qu'on en a parlé. Mais ça, l'idée du troc, ça devait quand même rapidement se compliquer.
Ben, ce qui est compliqué dans le troc, c'est que, bon, moi, j'ai une vache, j'ai besoin d'une paire de chaussures, tu sais. Ben, encore faut-il que le cordonnier ait besoin d'une vache. Parce que sinon, ben, le cordonnier va dire, ben, moi, je veux pas ta vache, tu sais. Ben, moi, c'est tout ce que j'ai à donner. Mais j'ai vraiment besoin d'une paire de chaussures. Donc, le troc, c'était vraiment pas efficace pour agencer les besoins avec les ressources des différentes personnes. Donc, la société a un peu progressivement adopté différents objets comme monnaie. Des coquillages, du sel, des métaux précieux. Donc, on regarde là, le House of Dragon, là on parle de coins, là, ils ont des petites pièces d'or et d'argent. Ouais. Donc, éventuellement, là, c'était l'or et l'argent. En Nouvelle-France, c'était des cartes, la monnaie de cartes, donc littéralement des jeux de cartes, là, signés. Puis, donc, peu importe c'est quoi l'item, aujourd'hui, le Bitcoin est devenu... Bon, c'est une monnaie de commodité, là, ça c'est encore un débat ouvert, mais si on s'entend que c'est une monnaie, c'est une monnaie.
Et pendant longtemps, on sait que l'or a occupé une place particulière. Pourquoi?
Ben parce qu'il y avait plusieurs qualités utiles. D'une part, l'or, c'est rare. Donc, tu sais, ce qu'on veut pas, c'est que quelqu'un qui soit capable de se créer un paquet de monnaie. Donc, la monnaie royale canadienne, ben, essaie de faire des billets compliqués à copier. Ben, l'or, c'est un petit peu ça, là. C'est compliqué, c'est difficile à trouver. Donc, l'or, c'est rare. C'est durable. Donc, c'est un métal, là, qui oxyde pas, qui ne rouille pas rien, qui garde sa nature pendant très, très longtemps. Ça se transporte assez facilement. Là. Quelques pièces d'or, là, ça se met bien dans les poches de pantalon. Puis bon, c'est difficile à reproduire. Là. On sait que les alchimistes ont tenté longtemps de transformer le plomb en or ou le cuivre en or, je ne sais pas trop, là, mais ça n'a jamais marché, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on connaît la science, puis bon, c'est pas de même, ça marche. On ne peut pas transformer une matière première en une autre.
Parfait. Donc, à une certaine époque, puis ça, même, je pense un peu...
Les années 70, oui.
Exactement, ouais. Peut-être lorsqu'on est né, là, un billet de banque représentait réellement une quantité d'or.
Oui, jusqu'en... Et là, 72, 74, dans ces eaux-là, un dollar américain, donc le dollar américain était adossé à la réserve d'or détenue à Fort Knox. Là, littéralement, on pouvait échanger des dollars américains contre une quantité d'or. Ce qui fait que le prix de l'or était relativement stable dans le temps, autour de 35 $ l'once. Et à un moment donné, ben, la Banque centrale a dit, bon, c'est pas nécessaire là, que ce soit littéralement échangeable. On s'entend tous que ça a une valeur. Donc, on enlève là, ce ratio-là de X nombre de dollars par once d'or. Donc, ce n'est plus du tout, il n'y a plus de lien entre une quantité d'or et un billet de banque.
Donc ça l'a évolué. Et ce qui est fascinant aujourd'hui, et réellement j'y pense souvent, c'est qu'on utilise de moins en moins de billets.
Ben le billet, il est caché dans notre carte de plastique. Là, donc oui, c'est puis la majorité de l'argent, elle n'existe pas physiquement. Là, j'ai mentionné, c'est la semaine passée ou la précédente, là, la masse monétaire.
Ouais.
Là, la masse monétaire, là, c'est pas une pile de billets dans un entrepôt. Là. La masse monétaire, c'est tout l'argent qui existe, surtout de façon électronique. Donc, votre relevé de compte de banque, là, de votre REER qui vaut des centaines de milliers de dollars, il n'y a pas d'argent physique, de billets de banque qui traînent quelque part là, pour refléter ça. C'est tout de l'argent notionnel, théorique, électronique. Donc, c'est vraiment là, c'est des chiffres dans un système informatique, tout simplement.
C'est ça. Et pourtant, on ne remet pas en question sa valeur.
Exact. Dans notre système, on a confiance dans le système, on a confiance dans nos banques, dans nos gouvernements, dans nos institutions financières. Est-ce que c'est le cas dans tous les pays? Non. OK, on s'entend. Donc, et surtout le fait que d'autres acceptent également notre argent. Je le sais que mon billet de dollar canadien, mon 20$ canadien, la semaine prochaine, le mois prochain, il va valoir quelque chose. L'inflation va venir jouer un rôle dans la capacité d'acheter des biens, mais le billet va toujours valoir quelque chose.
On peut voyager en France aussi, puis on peut prendre notre billet puis l'échanger contre des euros. Donc, les autres pays ont confiance dans notre argent.
Exact.
Voici une question intéressante, puis c'est déjà arrivé. Là. Que se passerait-il si les gens cessaient soudainement de faire confiance à leur monnaie?
Ben, si tout le monde perd confiance, ben l'histoire nous montre que ça peut arriver. Hein? Quand la confiance disparaît, les prix explosent à la hausse. Donc, si soudainement, il n'y a plus personne qui veut ma monnaie, on l'a vu là, dans différents pays. Le pays m'échappe, là, en Afrique, là, il y avait de l'inflation à comme 2000% par mois parce que essentiellement, l'argent valait plus rien. On se souvient peut-être de la lire italienne. Là, moi, quand j'étais caissier à Banque Laurentienne à 18 ans, j'étais dans le quartier italien, puis là, les personnes italiennes venaient déposer de l'argent, puis là, 1 million de lire, là, je capotais, ils sont riches, ce monde-là. Finalement, ça valait quasiment rien, là, c'était pas... Donc, ça arrive, là, des fois, qu'il y a certaines monnaies dont la confiance disparaît. Donc, les gens tentent de l'échanger, puis finalement, ben ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui arrive si je pense que ma monnaie vaut presque plus rien et ne vaudra plus rien, ben je vais rapidement me dépêcher à l'échanger contre des biens. Puis c'est un peu ça qui crée l'inflation. Là. Si je me dépêche à acheter des affaires pour me débarrasser de mon argent qui est en train de perdre sa valeur, ben ça fait monter les prix de tout. Puis là, c'est un peu une spirale. Là. Les prix montent, l'argent vaut moins, les prix montent.
C'est ça, exactement. Donc, la véritable force d'une monnaie est la confiance qu'elle inspire.
Ben, c'est exactement ça. Là. La confiance, c'est l'actif le plus précieux du système financier. Puis on entend toujours les banques centrales parler de l'ancrage des attentes d'inflation. T'sais, c'est important que les acteurs du système financier aient confiance dans le système puis s'attendent que ce soit relativement prévisible. On ne sait pas exactement ce qui va arriver au niveau économique, mais on sait que bon, le dollar américain existe, le dollar canadien existe. T'sais, l'inflation, on a confiance dans l'ensemble du système en général, même si on ne sait pas tout ce qui va arriver.
Donc, quel lien pouvons-nous faire avec l'investissement?
C'est un lien qui est assez important. Là. Quand on investit, en fait, on ne cherche pas juste à accumuler davantage d'argent. Ce qu'on cherche, en fait, c'est à préserver notre pouvoir d'achat.
Oui, ça, c'est super important puis super philosophique.
Exact. Ouais. Donc, si on parle d'inflation dernièrement, j'ai de l'argent, j'ai mis ça en dessous de mon matelas il y a 5 ans, puis là, je ressors mon argent, puis je suis content, j'ai rien perdu. Allez dépenser, vous allez voir que vous auriez dû dépenser votre argent il y a 5 ans, là, vous auriez eu plus de biens. Donc, on cherche par l'investissement d'abord à préserver notre pouvoir d'achat après impôts et inflation, puis idéalement l'accroître. Donc, si on a un rendement qui est plus élevé que l'inflation, au fil du temps, notre richesse réelle augmente. Donc, ce qui compte, c'est pas le nombre de dollars qu'on possède, mais c'est ce que les dollars que je possède me permettent d'acheter. C'est ça qui est ma richesse.
Donc, autrement dit, un million de dollars n'a pas même la même signification aujourd'hui qu'il y a 30 ans.
Je me souviens au primaire, là, être millionnaire. Là. C'était ça le but. Là, d'être, ouais. Je vaux un million. Aujourd'hui, un million, c'est pas tant. Là, essayez de faire l'exercice. Là, si j'ai un million de valeur nette totale puis je prends ma retraite à 55 ans, ça marche pas tant que ça. Donc oui, le million, c'est le même million, mais à cause de l'inflation, le pouvoir d'achat n'est pas le même.
Donc, plus nous discutons vraiment d'argent, je réalise que l'argent ressemble davantage plus à une idée qu'à un objet.
J'aime ça comme, tu sais, effectivement, c'est la bonne façon de voir les choses. C'est probablement une des plus grandes inventions de l'humanité. On va dire que la roue et l'écriture, c'est pas mal en haut de la liste. Là,
ouais.
Mais bon, oui, l'argent, la capacité d'échanger des biens, c'est pas tangible, c'est vraiment conceptuel, là, l'argent. Ben oui, au début, quand j'échangeais une vache contre une paire de chaussures, c'était très concret. Mais quand on a décidé de dire, OK, ben, tu sais, une carte, un billet de papier, une pièce d'or ou d'argent, c'est devenu donc très philosophique. Puis, tu sais, c'est vraiment, ça permet à des millions de personnes qui ne se connaissent pas du tout de coopérer entre elles. Donc, j'achète un café, j'investis dans une entreprise, on reçoit notre salaire, tout ça fonctionne. Parce qu'on a partagé une confiance en commun dans un système.
C'est incroyable. Je trouve en ce moment, on a l'impression que plus personne s'accorde sur rien. Mais quand on comprend le concept de l'argent, c'est pas mal intéressant qu'à chaque jour, on est capable de s'accorder sur ça. Puis des millions de personnes sont capables de le faire. Donc finalement, l'argent n'est peut-être pas le but. C'est peut-être simplement un outil.
L'argent permet d'obtenir autre chose, ça permet d'obtenir la sécurité, la liberté, le temps, des expériences. Donc, il y a un auteur que j'aime beaucoup, Morgan Housel, là, ça fait 100 fois, je le mentionne sur le podcast. Mais l'argent, ça sert, à chaque fois que j'accumule un dollar, je me suis acheté du temps futur que j'ai mis de côté pour moi. L'argent, ça me permet de faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, pour la durée que je veux. Puis moi, j'ai trouvé que c'était une belle définition de l'argent. Avoir de l'argent en soi, ça sert à rien, sinon que de faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, pour la durée que je veux.
Donc aujourd'hui, on a une discussion quand même très philosophique. Comment est-ce que tu penses que nos clients devraient retenir la discussion? Ou qu'est-ce qu'ils devraient retenir de notre discussion aujourd'hui?
Ben, ce qu'il faut se rappeler, c'est l'argent tire sa valeur de la confiance. L'argent, c'est simplement un outil. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une mesure de notre valeur personnelle du tout. Ça nous permet de faire des choses puis d'acheter la liberté. Le véritable objectif, en fait, c'est d'avoir un pouvoir d'achat. Donc, le pouvoir d'achat de faire ce que je veux quand je veux. Je voulais le répéter 3 fois. L'inflation réduit progressivement cette valeur-là. Donc, La notion de vouloir garder sa valeur nominale d'argent par peur de subir des fluctuations de marché vous garantit de perdre votre valeur au fil du temps en raison de l'inflation. Donc, investir, ça consiste à protéger et à faire croître le pouvoir d'achat dans le temps.
Donc, cette réflexion aujourd'hui nous rappelle qu'au-delà des marchés, des taux d'intérêt, des portefeuilles, tout ce qu'on parle à chaque semaine, la finance demeure profondément humaine et c'est pour ça que je l'adore.
Exact. Les chiffres sont importants, mais derrière les chiffres, il y a des personnes, des projets puis des valeurs, puis c'est ça qui est important.
Exact. Donc aujourd'hui, nous avons appris quelque chose. L'argent n'a pas toujours existé. Pendant des siècles, les humains ont utilisé différentes formes de monnaie. Aujourd'hui, la majorité de l'argent est essentiellement numérique. La valeur d'une monnaie repose principalement sur la confiance. Investir ne consiste pas seulement à accumuler des dollars, mais à préserver son pouvoir d'achat, tel que tu l'as dit. Au fond, l'argent est probablement davantage une idée collective que simplement un objet physique. Et lorsqu'on y pense, c'est quand même assez fascinant. Chaque matin, des millions de personnes vont travailler, échangent des biens et investissent leur épargne en se fondant sur une confiance commune envers un système que nous avons construit ensemble. Ça, c'est une belle pensée avec tout le conflit qu'on vit aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Martin, pour cette discussion un peu différente. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions sur vos placements, votre retraite, votre portefeuille ou sur votre planification financière complète. Notre équipe, Laurie, Michel, Mathieu, Martin et moi, est toujours là pour vous accompagner. À bientôt pour un prochain épisode de À l'écoute des investisseurs.